C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Roselyne.
L'extrême droite s'installe-t-elle durablement en Europe? Les Pays-Bas, l'Italie, la Slovaquie, la Hongrie ont à la tête de leur pays un leader d'extrême droite. En Allemagne, l'AFD se prépare à un nouveau succès aux élections de Thuringe et le FPÖ en Autriche se renforce. En France, le parti de Marine Le Pen s'assoit tranquillement sur le trône de la respectabilité, profitant de la radicalité d'Éric Zemmour à l'extrême droite et de celle de Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche. Le journal Le Monde publie aujourd'hui son baromètre annuel avec France Info et révèle qu'une majorité de Français considère le Rassemblement national comme un parti de gouvernement. Terrorisme, faits divers, immigration, inflation. Le parti lepéniste, longtemps au banc de la République, montre désormais un visage de modération, tant dans l'expression que dans le comportement, notamment à l'Assemblée nationale où il compte 88 députés. La France sera-t-elle la prochaine sur la liste, à compter un responsable d'extrême droite à la tête de l'État? La colère va-t-elle prendre le pas sur la raison? On en parle avec nos invités. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, bonsoir à vous.
Bonsoir Roselyne.
Laurent Geoffrin, directeur du quotidien en ligne lejournal.info. Bonjour à vous Laurent,
bonjour.
Merci d'être là. Et Guillaume Daret, bonjour.
Bonjour Roselyne.
Journaliste à France Télévisions. Alors, ce baromètre, je vais vous le montrer tout de suite. Pour Le Monde et France Info, qui vient de confirmer aujourd'hui la normalisation du RN, à la question « Pensez-vous que le Rassemblement national représente un danger pour la démocratie en France ?» 45% considèrent que non, il ne représente pas un danger. Et ils sont 41% à penser que oui, représente un danger. Donc, autre question, cette fois, le rôle du Rassemblement national dans la vie politique. Pour 43%, le parti de Jordan Bardella a la capacité de participer à un gouvernement et pour 39%, ce n'est qu'un parti d'opposition. Alors, j'attends vos commentaires. En clair, Jean-Marie, et de manière nette, le Rassemblement national semble être le seul parti à incarner l'opposition à Emmanuel Macron. Bon, ce n'est pas vraiment une découverte, mais bon, cette fois, on a en tout cas, c'est acté par une partie des Français qui a été sondée.
Ce n'est pas une découverte, mais c'est ce qui explique en grande partie son succès, parce que, rappelez-vous, dans la phase précédente, il y avait dispersion partout, et le pôle d'ancrage, c'était Emmanuel Macron. Là, vous avez une dispersion généralisée partout, et oui, vous avez un pôle qui est fixe, avec son socle électoral qui tient bon, et qui est Marine Le Pen. Donc il y a un mécanisme là assez simple et assez difficile à contrer, d'ailleurs. Par ailleurs, il y a l'aspect, vous avez parlé de l'expression du Front National. Oui, l'expression a changé, l'expression de Marine Le Pen a changé. Ça avait commencé par le port de la cravate à l'Assemblée nationale quand les nouveaux élus étaient arrivés. Tout ça est vrai. Et puis il y a le fond. Et le fond, c'est
ouais,
ce qu'il...
On regarde pas le fond.
Oui, mais le fond, c'est ce qu'il porte quand même. Et ça, il faut regarder, par exemple, il suffit de se tourner vers Florence, la ville de Florence en Italie, où il y avait ce week-end un grand rassemblement, où il y avait le Rassemblement National, l'AFD, le parti de Matteo Salvini, la Ligue, et quels étaient les discours, notamment ceux de Matteo Salvini, puisque Bardella y fait référence et proclame son alliance avec Matteo Salvini. Il était question d'une Europe livrée aux francs-maçons et d'une Europe livrée au Goliath George Soros, c'est-à-dire il y avait tous les thèmes de l'antisémitisme qui étaient déclinés les uns après les autres. Donc à un moment ou à un autre, il faudra que le Front National, le Rassemblement National, cesse d'échapper à ces questions et affronte ce qu'il peut dire hors des frontières,
oui, oui,
par rapport à ce qu'il dit ici. Ici, c'est rassurant. Hors des frontières, c'est l'extrême droite telle qu'elle a toujours été.
Alors peut-être, on va reparler de ça aussi, de l'Europe et des soutiens. Ils se donnent un peu tous la main et se font la courte échelle. Mais d'abord, Laurent, comment vous expliquez-vous cette montée inexorable du parti de Marine Le Pen, sachant que la dédiabolisation, mot qui a été, je crois, prononcé pour la première fois en 89 dans le journal Le Monde par Olivier Biffaut, la première fois qu'on voit ce mot à travers le Front National, est-ce que cette dédiabolisation a, en quelque sorte, comment elle a pu réussir au fil des années? Quel en a été le terreau? C'est compliqué comme question.
J'ai un avis un peu hétérodoxe.
Vous avez trois minutes.
Parce que c'est le comportement des autres partis ou le comportement des médias, c'est important, bien sûr. Mais pourquoi ils montent? Parce que quand il était diabolique, il montait. Et puis maintenant qu'il est moins diabolique, il monte quand même. Ouais. Donc c'est peut-être pas ça le facteur principal. Ouais. Il y a peut-être d'autres facteurs. Et si vous regardez l'actualité, c'est assez simple à analyser. Vous avez actes terroristes, vous avez violence incroyable dans les banlieues, vous avez insécurité, montée des agressions, c'est indiscutable, il y a une montée des agressions en France. C'est ça qui fait monter le Front National. Le langage qu'on tient ou qu'on ne tient pas, le fait qu'on dise « oui, il a tort ou il a raison », son programme est horrible, ce qui est la vérité, et ce n'est pas un parti républicain, et ils sont vraiment un parti d'extrême droite plus ou moins camouflé par un discours rassurant, ça c'est vrai. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Il faut résoudre les problèmes qui sont à la base de la montée du Front National, c'est ça qui compte. Il compterait, à mon avis. Vous avez un problème social, d'inégalité, il y a une partie de la population française qui se sent abandonnée, rejetée, méprisée même à certains égards. Et puis, vous avez des questions comme l'insécurité, où les partis de gouvernement n'arrivent pas à juguler la montée de l'insécurité, c'est un fait. Et puis, vous avez la réponse à l'immigration. La gauche évite de parler d'immigration, parce qu'elle dit, oui, ça c'est le terrain de la droite et de l'extrême droite. Mais à force de ne pas en parler, il n'y a que le Front National qui en parle. Formal, mais c'est le seul à en parler. C'est ça les facteurs principaux, pas tellement le discours.
Et puis, oui.
On peut voir qu'aussi la majorité actuelle n'a jamais su vraiment que faire de ce Rassemblement National, parce qu'à la fois, ils en ont joué, à commencer par les dernières élections européennes il y a 5 ans, où clairement ils avaient affiché les deux camps pour eux, disent-ils, agréger ce qu'ils considéraient comme les raisonnables, ou en tout cas les pro-européens face à ceux qu'ils décrivaient comme les populistes. Et on a pu voir aussi récemment, à travers les fameuses rencontres de Saint-Denis, que la majorité était toujours aussi divisée sur cette question-là. C'est-à-dire que quelques semaines avant, Elisabeth Borne disait le Rassemblement National et LFI ne sont pas dans l'arc républicain. Et fin août, Emmanuel Macron conviait tout le monde, Rassemblement National compris, à Saint-Denis. Et dans la majorité, clairement, ils concèdent qu'ils ne savent pas comment faire. Parce que les mettre de côté, si j'ose dire, et rediaboliser, ils ont le sentiment que ça les victimise et que ça les fait monter. Et à l'inverse, ils ont le sentiment aussi que quand on les convie à Saint-Denis et que Jordan Bardella joue le rôle parfait, finalement, de l'opposition la plus respectable possible, qu'il se rend à la troisième rencontre quand Éric Ciotti, par exemple, pour LR, n'y va pas, eh bien, ça participe aussi à leur normalisation. Clairement, personne ne sait comment faire avec eux.
Ouais. Et la gauche, Catherine, a été, ce que disait Laurent tout à l'heure, la gauche a été remplacée par le parti de gouvernement par Mélenchon et la droite par l'extrême droite en vérité. Donc elle a pris la place des partis qui à la fois se revendiquaient du on va dire des classes populaires qui ont été abandonnées par la gauche. Et une droite qui est restée trop libérale.
Je pense qu'on ne peut pas examiner la situation sans se poser la question de l'alternative. Je crois qu'il y a quand même une recherche d'alternative. La proposition qui a été celle d'Emmanuel Macron en 2017 n'a pas convaincu. On va parler peut-être tout à l'heure des résultats de PISA, mais on peut parler des services publics, on peut parler, là je viens d'arriver en catastrophe, parce que encore une fois les transports en commun à Paris sont en difficulté, on est devant une somme de difficultés que tout un chacun rencontre, difficultés liées à l'augmentation, etc. Bref, il y a une insatisfaction sur la réponse politique et celle qui apparaît aujourd'hui, peut-être parce qu'elle a été diabolisée, qu'elle a su se montrer radicale d'une certaine manière à un moment donné dans la critique, et aujourd'hui elle dit je vais vraiment faire un changement. Je vais vraiment changer les choses, mais aujourd'hui, j'apparais comme quelqu'un qui va me normaliser, c'est-à-dire je vais être capable de parler avec les patrons, je vais rentrer dans le jeu des institutions, je suis capable de rassembler les Français. C'est-à-dire que je pense au contraire que ce premier temps, je suis radical, deuxième temps, je me normalise, je me dédiabolise, je pense que ça fonctionne très bien. D'autant que pendant ce temps-là, en effet, comme vous venez de le dire, la majorité n'a pas su se positionner et qu'elle a cherché à diaboliser, à taper sur la tête comme des sourds sur la NUPES, donc en la présentant comme plus en dehors de la République que le Front National, ce qu'a fait encore hier Larcher, en dehors de son oui. mot très déplacé à l'égard de Mélenchon, sa façon de s'exprimer qui est totalement anormale, mais au-delà de ça...
Il a dit « ferme ta gueule ».
Oui, quand il a dit « ferme ta gueule ». Mais au-delà de ça, dans le contenu, il dit « Jean-Luc Mélenchon ne fait plus partie de l'arc républicain ». C'est-à-dire que, en gros, celui qui a fait 22% et qui représente la gauche, que ça nous plaise ou ne nous plaise pas, mon cher Laurent, ceci étant, il est mis en
c'est
dehors...
C'est pas moi que ça déplaise, c'est
non,
la
non,
gauche,
mais en dehors, il nous met en dehors, il met cette gauche-là en dehors de la République, et donc la seule alternative... La seule alternative qu'on présente, c'est celle du Front National. D'autant que la droite, en plus, glisse de plus en plus et en aucune façon capable d'être une alternative à Emmanuel Macron.
On ne peut pas dire que Mélenchon fasse beaucoup d'efforts pour s'y remettre.
Ah, non, mais si vous voulez, ce que je pense, c'est que Mélenchon, il est en train de copier la stratégie de Le Pen, c'est-à-dire je renverse la table et puis un jour, il saura remettre ses habits de sénateur. Peut-être pense-t-il refaire le coup de ce qu'il avait fait dans la dernière présidentielle, parce qu'en fait...
Oui, mais Marine Le Pen a remis l'outrage au vestiaire.
Il s'est changé de costume.
Ce qui a payé, c'est qu'elle a mis tout ce qui est outrage au vestiaire.
Oui, bien sûr.
On a rentré les aspérités.
Mais Mélenchon avait fait des perquisitions. Il est tombé au fond du trou et puis il a réussi à remonter à être à 22.
Oui. Et donc, pas ces attaques contre Rutel-Krieff qui vont aider à le faire rentrer dans l'arc républicain.
Moi, je trouve ça lamentable ce qu'il fait.
Jean-Marie,
c'est une stratégie. Ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est exactement ce qu'avait dit d'entrée de jeu Laurent Fabius. C'est-à-dire le Front National pose des bonnes questions et apporte de
j'ai pas dit qu'il posait de bonnes questions parce qu'il les pose mal mais...
Alors, oui, mais moi je pense que de toute façon
il met le doigt sur les choses qui font mal
sauf que le dire et accepter cela c'est aussi créditer le Front National d'apporter des réponses à ces questions, or il n'apporte pas de réponses à ces questions, donc il ne faut pas s'abstenir de dire que oui, Marine Le Pen quand elle fait des choix qui sont pro-Poutine contre l'Ukraine, quand il y a des réunions internationales où son parti est mêlé à des discours qui sont ouvertement antisémites, il n'y a pas de raison de les taire, de ne pas les dire. Quand elle propose comme programme économique, pratiquement aujourd'hui, le programme
sur
de la CGT...
Sur Poutine, c'est Mezovoce depuis quelques temps.
Pratiquement aujourd'hui, c'est le programme de la CGT qu'elle reprend à son compte. On peut expliquer que ce n'est pas forcément ça qui va aider les classes moyennes à sortir de leur déclassement, du moins celles d'entre elles qui se sentent et qui sont objectivement déclassées. Donc il faut quand même continuer de dire que les solutions qu'elle porte sont des solutions
Mais c'est l'un n'empêche pas l'autre.
Sont des solutions qui ne feront rien avancer.
Et avec en plus toujours quand même une forme d'isolement politique, parce qu'il y a les électeurs, mais on voit que depuis des années, on décrit une fusion supposée, une fuite supposée des leaders de la droite vers le Rassemblement National. Pour l'instant, mis à part Thierry Mariani, par exemple, il y a quelques années, il n'y a pas eu de fuite des cerveaux, si j'ose dire, vers le Rassemblement National. Les électeurs, c'est une autre chose.
Le sondage de ce soir du Monde montre que les électeurs qui sont les électeurs républicains et avec également les électeurs de Renaissance, c'est-à-dire du parti macroniste, survalorise le Front National. C'est-à-dire qu'en fait, la dédiabolisation du Front National, elle a très bien marché. Le seul endroit où ça résiste encore, c'est à gauche. Le seul endroit où on ne trouve pas que le Front National n'est pas un problème pour la République et qu'elle n'est pas en mesure de gouverner, c'est à gauche. Côté Renaissance et côté Républicain, ça survalorise cette réponse.
Laurent, ce qui nourrit aussi le succès du Rassemblement National, c'est beaucoup l'exploitation des faits divers. Le dernier exemple est le drame, bien sûr, du bal de Crépole, où le Rassemblement National était le premier à dégainer le racisme anti-blanc et sur l'attentat samedi soir à Paris. Mais il s'avère justement que l'enquête du Parisien sur Crépole de nos confrères révèle que les faits sont totalement différents de ce qui avait été dit par le Rassemblement National dès le début de l'enquête.
Surtout par le groupe Bolloré, en fait. C'est lui qui a imposé la première version, c'est-à-dire une expédition punitive, entre guillemets, préméditée, montée par des gens des quartiers contre un village composé de Français blancs catholiques. C'est ça le récit. Et évidemment, quand on apprend petit à petit qu'est-ce qui s'est vraiment passé... C'est quand même plus compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de préméditation, manifestement. C'est une bagarre qui s'est déclenchée dans le bal et qui a agrégé les gens qui se ressemblaient, finalement, qui venaient du même quartier, contre ceux qui étaient là. Bon. Mais ce n'est pas tellement rassurant pour autant, parce que quand une partie de la gauche dit « mais non, c'est un fait divers », oui, ce n'est pas seulement un fait divers, c'est quand même un problème, parce que ça renvoie à l'existence, dans ce quartier de la Monnaie, d'une minorité, hein, une petite minorité de gens qui tiennent le quartier sous leur coupe et qui terrorisent leurs voisins, qui sont de la même... C'est pour ça que le discours de l'extrême droite, c'est de dire c'est communauté contre communauté. Bon, quand on voit la situation à la Monnaie, c'est pas du tout ça, parce que les gens qui habitent à la Monnaie et qui ne sont pas délinquants, eux, ils demandent à ce qu'il y ait plus de policiers et ce qu'on mette de l'ordre. Donc ils ne sont pas du tout dans la solidarité avec les délinquants.
Pourtant, mais quand on entend la mère de...
Et la mère, elle dit la même chose que moi, si je puis dire.
Mais c'est vrai que la mère ne dit pas que c'est une guerre de civilisation.
Ouais. Certainement pas. Elle dit il y a une minorité délinquante à la Monnaie dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui terrorise tout le monde. Ouais. Donc ce n'est pas non plus une situation rassurante. Ce n'est pas le discours de l'extrême droite, mais ce n'est pas non plus un fait divers, parce que c'est un fait social. Ce fait social, c'est l'existence dans beaucoup de cités française, d'une minorité hyper délinquante, en dehors des lois, séparée au fond du reste de la société, et minée par le trafic de drogue.
Bien sûr,
et ça, on le sous-estime constamment. Quoi.
Je ne sais pas si on sous-estime maintenant le problème de la drogue qui s'est généralisé, qui est évidemment une urgence absolue. Mais en même temps, ce qu'on nous a vendu d'entrée de jeu sur cette affaire, c'est on nous a vendu quelque chose avec un couvercle ou avec une interprétation ethnico-religieuse.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai contesté.
Vous avez une bande de jeunes rugbyman qui avaient envie de distiller dans l'enquête. Disent-ils casser du bougnoul, et puis vous aviez d'autres gens de l'autre côté qui disaient on va l'inverse. Mais je veux dire, c'est une situation qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous a vendu au départ. Or, c'est l'interprétation de départ qui...
Une partie des gens viennent avec un couteau, quand même.
Non, mais bien sûr.
Oui, mais c'est important. Parce que s'ils n'auraient pas de couteau, il n'y aurait pas de mort.
Mais ça n'empêche pas ce que vous disiez tout à l'heure. Ça n'empêche absolument pas. Sauf que la réalité est infiniment plus complexe et n'obéit pas à cette espèce de classification.
Je suis bien d'accord.
Il y aurait une France contre une autre. Et il y avait même de toute éternité en France des bandes qui terrorisaient, les fêtes de village, qui arrivaient avec leurs chaînes de vélo à l'époque, puis qui avaient des points américains, puis ainsi de suite. Je veux dire,
Ça s'est quand même aggravé.
Ce qui est aggravé, c'est le problème de la drogue. Parce que ça, c'est un cancer absolu. Il y a d'ailleurs un mort par jour à Marseille.
Roselyne.
Alors, Guillaume, quelles que soient les conclusions de l'enquête, est-ce que on peut considérer que le mal est fait, c'est-à-dire que ça s'est engrammé dans les esprits,
rationnel, quel que soit le débat.
Oui, on n'est plus dans le rationnel.
Là où Laurent a parfaitement raison, c'est que la gauche se trompe en disant que c'est qu'un fait divers, parce qu'on voit bien quand vous en parlez. Enfin, c'est un fait dont tout le monde parle dans son entourage, et désormais, quels que soient finalement les faits qui sont révélés. Tout le monde a à peu près sa conviction, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vérifiée. Donc ça va rester. Là où on voit aussi que plus fort que les faits, il y a la croyance politique. Quand vous écoutez par exemple Marion Maréchal hier matin sur France Info, quand Salah Brakla lui pose une question sur la question de la menace de l'ultra-droite, elle répond « mais en fait, je m'en fous ». C'est pas la question. Elle ne souhaite même pas savoir quelle est, à quelle hauteur il y a une dangerosité de cette menace-là. Elle répond juste « je m'en fous, c'est pas le sujet, passons à autre chose ». Donc on voit bien qu'il n'est plus question d'effet aujourd'hui, et question de croyances politiques qui dépassent absolument tout.
Ouais. C'est
scénario
aussi,
américain.
Alors, on va en parler.
La politique américaine est celle-là.
Vous pouvez être court pour parler des États-Unis.
Très rapidement, moi, ce que je pense, c'est que ça a pris beaucoup d'importance parce qu'il y a un moment d'angoisse qui est un peu généralisé. On se demande où va notre pays, est-ce qu'il va encore tenir debout, est-ce qu'on va encore tenir ensemble. Et le problème, c'est que là, il y a eu une histoire qui a été racontée qui nous a permis de se matérialiser ce délitement, mais on sait bien tous que ce n'est pas là profondément que c'est en train de se jouer. Ou si ça se joue en effet autour de la question de la drogue, ça se joue autour de la question de l'aménagement du territoire, de l'aménagement des villes, ce qui n'a absolument pas du tout été traité après les émeutes de cet été. Ça se joue autour de l'école et on voit bien que on a tous pris un coup sur la tête quand on a eu le résultat de l'enquête PISA qui vient de tomber. On se dit, mais ça ne va pas du tout. Et donc, tout ça est en train... Et après, ça se joue, après ce qui vient de se passer, la tension extrême sur les retraites et les inquiétudes que tout le monde a de déclassement, de pauvreté, etc. Donc là, il y a une histoire qui nous est racontée et d'une certaine manière, en subliminal, ce qu'on nous dit, c'est que si ça ne va pas en France, ça ne va pas à cause des enfants issus d'immigration. C'est-à-dire, c'est même pas les immigrés, oui, c'est des enfants issus de l'immigration.
Oui. Donc, tout de suite.
Voilà. Et ben moi, ce que je pense, c'est que le problème, c'est comment on interprète, quelle est la grille d'interprétation que l'on donne aux problèmes de notre pays, qui sont des problèmes très sérieux, pas du tout artificiels, et que la gauche ne se défile pas pour les traiter. Par contre, on ne peut pas considérer que c'est un problème d'abord lié à l'immigration et aux enfants d'immigrés. Ce n'est, ils y participent certainement, probablement, mais dans un cadre qui est beaucoup plus large que celui-là.
C'est difficile de dire que ça n'a absolument aucun lien, parce que c'est, on voit bien que ce sont les enfants d'immigrés.
Non, ce que je dis, c'est que ce n'est pas eux qui délitent la France.
Ce qui, bien sûr, oui.
Parlons
on peut dire
sérieuses.
Quand même la vérité, c'est-à-dire que ce sont des enfants d'immigrés.
Je ne dis pas le contraire, mais qui sont ghettoisés.
Eh bien, j'ai bien compris.
Bon, donc il faut traiter la question des ghettos.
Laurent,
oui, mais ce sentiment communautaire entre eux existe.
Je ne sais pas ce qui vous permet de le dire. Bon, franchement,
De les écouter.
Il se trouve que je suis architecte urbaniste et que je travaille
très
souvent
sur les
transformations, des grands quartiers populaires, et je peux vous dire que ce n'est pas ce qui domine dans ces quartiers, mais vraiment pas.
C'est le cas du quartier de la Monnaie. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé pour rénover le bâti, pour changer les tours, etc. Mais ce n'est pas ça le front de l'affaire. Bon, c'est bien, c'est utile, il fallait le faire. Mais manifestement, il y a d'autres problèmes.
Exactement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire cette... Mais la transformation de ces quartiers dans l'aménagement du territoire, la question de l'école, la ghettoisation de l'école est un problème fondamental. Je veux dire, d'ailleurs, les parents des enfants de ces quartiers...
Ça tient, à mon avis, à la concentration
des
immigrés dans des quartiers de ce genre.
Donc, ça va nous amener...
Mais ce n'est pas eux qui ont choisi d'y aller. Ce n'est pas eux qui choisissent d'aller dans ces quartiers. C'est qu'on les met dans ces quartiers.
Je ne dis pas ça pour dire que c'est de leur faute.
Je
conteste l'idée que ça n'a aucun lien avec l'immigration.
Moi, ce que je dis, c'est que ce qui a à voir avec la ghettoisation, le parcellisation...
Mais ce sont des immigrés qu'on ghettoise. Donc, c'est un lien quand même.
Mais pour reprendre, il y a une série, disons une fraction du paysage médiatico-politique une réalité alternative. C'est ce que les Américains appellent l'alt-right ou bien etc. C'est la même chose. Et là, le discours dominant, c'était sur Crépole, c'était évidemment une razzia anti-blanche, et le mot razzia est prononcé par Marine Le Pen, qui n'est pas neutre, le mot razzia. Ça fait référence quand même à des choses historiques bien répertoriées. Et là, on nous vend l'idée que le mauvais classement PISA est exclusivement dû au fait qu'il y a trop d'immigrés en France. Soit la question que vous allez poser, on va vous dire qu'il y a trop d'immigrés parce que c'est leur axe principal. Donc voilà, il faut quand même essayer de dire que la situation française n'est pas tout à fait celle-là, qu'elle est à la fois plus nuancée et plus positive qu'on peut le raconter.
Justement, le classement PISA, donc la France est évidemment, mais comme chaque année, c'est pas là encore une nouveauté, les Français ont le bonnet d'âne. Si les ministres sont assez inaudibles en ce moment, il y en a... Pardon ?
On est dans la moyenne de l'OCDE.
On est dans la moyenne.
Enfin, bon, c'est quand on est...
Par rapport...
À la fin.
Par avant, c'était mieux avant, vous savez. Hein ?
Non, ça a baissé, ça, c'est vrai. Mais il faut...
Oui.
On dit le bonnet d'âne, c'est les pires.
Oui, dans la moyenne.
Oui, bon.
Ça pourrait être mieux.
Ne soyons pas déclinistes, vous avez raison, Laurent. Il y en a un qui prend particulièrement la lumière comme ministre, c'est Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation. Après l'interdiction de l'abaya à l'école, le ministre met fin au collège unique en instituant des groupes de niveau, pour schématiser, donc en trois, les bons, les moyens, les mauvais. Donc je vous propose de l'écouter, on en reparle.
Aujourd'hui, j'assume de porter une ambition très forte pour l'école sans aucun tabou. Ce que nous allons mettre en place, ce doit être un véritable électrochoc. Un électrochoc pour remettre l'exigence à tous les étages, un électrochoc pour remettre les savoirs fondamentaux au cœur de la promesse de l'école, un électrochoc qui s'adresse aux élèves, qui relancera l'ascenseur scolaire, confortera la place du professeur et redonnera confiance aux familles.
Guillaume, c'est plutôt un retour aux thèses qui sonnent bon aux oreilles de la droite, non ?
Oui, alors après, il était très attendu, y compris par ses petits camarades du gouvernement qui ne lui veulent pas tous du bien, parce qu'ils estimaient que sur l'abaya, c'était pas forcément évident, mais c'était pas non plus le cœur de son métier de ministre de l'Éducation, et que donc, ça allait peut-être être une autre histoire quand il allait en venir justement à la question vraiment de l'éducation, des savoirs et autres. Donc là, il met sur la table ce qu'il veut faire. On est effectivement sur une version qui va plaire plutôt... à la droite et à une partie du centre. Et il va poursuivre au début de l'année prochaine. Son entourage me disait, il y aura toute une partie aussi sur l'éducation civique. Certains le poussent déjà pour dire, il faut instituer, par exemple, l'apprentissage de la Marseillaise en primaire, des choses qui marqueraient l'opinion et qui seraient dans la même ligne directrice. Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron lui a donné carte blanche, même s'il le surveille de près, oui. Parce que comme le dit l'entourage du président de la République, l'éducation désormais fait presque partie du domaine réservé du président de la République avec les affaires étrangères et la défense. Donc il le surveille de près et en même temps il lui laisse clairement prendre la lumière sur cette question-là. Et puis il y a un autre domaine aussi sur lequel il va venir d'ici une dizaine de jours, qui est la question de l'uniforme qu'il veut faire tester. On voit qu'il y a un certain nombre de communes, que ce soit dans les Hauts-de-Seine ou par exemple dans les Alpes-Maritimes, qui se sont déjà portées candidates. Ouais. Et donc c'est là-dessus qu'il sera jugé. Il sait aussi clairement que s'il veut prétendre à quelque chose pour la suite, il va falloir qu'il réussisse dans la durée. Son entourage dit, voilà, maintenant on est pour 3 ans à l'éducation nationale parce qu'il faut qu'on obtienne des résultats. C'est là-dessus qu'on sera entendu. Par exemple, l'hypothèse de le voir candidat, candidat à la mairie de Paris est plutôt écartée pour l'instant.
Il a fallu attendre Laurent Gabriel Attal pour que les choses bougent un peu à l'éducation.
Non, mais manifestement, tout ça est quand même monté, c'est artificiel, mais c'est prévu. C'est-à-dire qu'on savait que les résultats de PISA seraient mauvais,
oui.
Donc on a prévu d'arriver derrière avec des mesures. Va plus loin que ça, c'est vrai. Ce qui me frappe, c'est que la droite trouve ça formidable, mais la gauche proteste mollement, je trouve. C'est-à-dire que... J'ai lu les réactions.
Sur les inégalités.
Par exemple, sur les groupes de niveau. Là.
Ouais, ouais.
Le fait de distinguer, c'est beaucoup plus nuancé et mélangé.
Je crois qu'il n'y a qu'un seul syndicat qui conteste.
La FSU conteste assez fermement, quand même.
Les syndicats.
Les
syndicats ne représentent pas forcément toute l'opinion française.
Autour de Gabriel Attal, il n'y a aucun expert scientifique. D'ailleurs, toutes les études scientifiques montrent que ça ne marche pas. Et lui, il ne s'entoure de personne. C'est-à-dire que c'est plus
compliqué. J'ai lu une synthèse des études. Il y en a certaines qui disent, oui, ils disent pas qu'il faut rétablir il s'agit pas de sortir du collège unique. Mais le fait de faire des groupes à l'intérieur de la même classe, avec une pédagogie différenciée, avec moins d'élèves pour ceux qui sont en retard, ils disent que ça marche, ça.
Écoutez, vous êtes de l'heure taquine, Catherine, aujourd'hui. Vous en voulez à Laurent Geoffrin aujourd'hui?
Il y en a qui disent que ça marche.
Je ne suis pas d'humeur taquine, ce que je pense.
Non, mais attendez, c'est vrai que... Les résultats sont là qu'on voit
quand vous dites qu'il ne s'est rien passé, je veux dire, on ne peut pas dire que Jean-Michel Blanquer... on a fallu qu'on attende Gabriel Attal pour qu'il se passe quelque chose à l'éducation nationale. On ne peut pas dire que
Les résultats,
Jean-Michel Blanquer, n'est pas allé avec le dos de la cuillère.
Catherine va défendre Jean-Michel Blanquer.
Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas de penser qu'on va faire des chocs et qu'on va faire des chocs de savoir et des chocs qu'on va casser le baccalauréat, qu'on va faire comme ci, comme ça.
Ouais,
le
bac, ça sera en mars. Parcoursup, c'est pas une réussite.
On peut pas dire non plus. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas de faire des chocs. Moi, ce que je pense, c'est que ça serait bien qu'on se calme et qu'on prenne les choses un petit peu à la racine. C'est-à-dire qu'on se pose un petit peu la question de, par exemple, est-ce qu'il y a des profs devant les élèves? 67% des collèges en France n'ont pas le nombre de professeurs complet. C'est pas qu'ils sont malades, c'est qu'ils sont pas nommés. C'est qu'on commence quand on est instituteur aujourd'hui, enfin professeur des écoles, à 1 500 € par mois. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, la rémunération, il n'y a pas la formation initiale, il n'y a pas la formation continue, il n'y a pas le recrutement, il n'y a pas la pérennité dans les équipes. Enfin je veux dire, le socle n'est pas là. Alors, on peut nous raconter qu'on va mettre des uniformes, on peut nous raconter
ça vient, les uniformes, c'est pour demain.
Non, mais attendez, le socle, mais le fond du fond, c'est qu'il faut mettre des profs devant des élèves. Et il faut avoir des profs formés et que qu'on s'interroge sur la pédagogie. Donc, qu'on ait des scientifiques, qu'on ait des pédagogues. Il n'en a aucun à côté de Gabriel Attal. Il fait de l'idéologie, il nous raconte
des histoires. Ce qu'on appelle le pédagogisme, certains ne dénonçaient pas justement l'idéologie.
Jean-Michel Blanquer, il a beaucoup, mais sauf que les pédagogues, il n'y a pas une seule façon d'envisager la pédagogie, mais on ne fera pas, on n'enseignera pas sans des pédagogues. Je veux dire, je regrette, mais c'est évident.
Jean-Marie.
C'est très difficile d'y voir clair. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait eu Jean-Michel Blanquer qui était porté au nu par l'actuelle majorité, aussi par la droite, et que la même majorité aujourd'hui trouve qu'il faut reprendre les choses à zéro. Et c'est vrai qu'il y a un lien étroit entre formation des professeurs et niveau des élèves. Ouais. Et les dernières études montrent qu'il faut vraiment que la formation s'améliore pour que le niveau des élèves puisse s'améliorer. Et donc, on avait une carence de la formation, parce qu'elle avait même été écartée un temps, la formation. Elle n'a été remise en place que tardivement. Et par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure, oui, si on met face aux groupes les plus faibles, entre guillemets, une classe de 12 élèves ou de 15 élèves, évidemment, ça va améliorer leur situation. Sauf que où sont-ils, ces profs?
C'est
ça le problème. Où sont-ils? Et ils sont d'autant moins pas là que
le grand problème. Les études supposaient qu'il y avait des profs devant les élèves.
Bien sûr. Mais c'est d'autant plus difficile que le recrutement des profs est très difficile.
Oui, je sais bien. Mais ils sont mal payés.
C'est un métier qui n'attire plus. Et non seulement c'est un métier qui n'attire plus, mais qui est considéré comme vraiment très difficile à juste titre. Et qui, au bout de la route, fait qu'on donne le diplôme de professeur à des niveaux de moyenne qui sont très inférieurs au niveau de moyenne qui était requis avant.
C'est un peu du speed dating même.
Donc, on continuera de creuser le
Oui, voilà, donc le niveau pas niveau, le résultat, d'après vous, Guillaume, sera toujours... Est-ce qu'on attaque le mal à la racine?
Après, ce qui, clairement, ce qui vient d'être dit, c'est que c'est tout autant un choix éducatif qu'un choix politique de la part de Gabriel Attal, parce que contrairement peut-être au précédent ministre de l'Éducation au pluriel, lui a des ambitions que d'autres n'avaient pas. Donc il a quand même aussi, il a la pression, il ne faut quand même pas qu'il se loupe. Là, s'il fait un an et demi et qu'on se rend compte que ça ne fait pas l'affaire, comme les autres, il ira faire autre chose. Et pour quelqu'un qui prétend aux plus hautes fonctions...
On lui traite déjà des ambitions.
Ce ne sera pas évident. Mais on voit qu'effectivement, c'est assez étonnant de voir, comme le disait Laurent, que l'un des seuls qu'on a entendu... protester le publiquement, c'est le pédagogue Philippe Mérieux qui lui est fermement opposé à ces mesures-là, mais que y compris sur la question par exemple du redoublement ou des mesures qui ont été annoncées qui sont plus fermes, la gauche ne s'est pas montrée très opposée à ces annonces-là.
Il faut dire que quand il y a une chute PISA comme ça et qu'on a elle vient pas d'il y a 6 mois, elle vient forcément d'un certain temps. Or, comme la gauche a été au pouvoir aussi, elle est un peu gênée de dire c'est une catastrophe, il faut tout changer, puisqu'elle a été au pouvoir pendant longtemps.
Et dans les problèmes, il y a le problème des inégalités sociales quand même qui sont montrées dans le résultat PISA. C'est-à-dire qu'on est quand même le pays de l'OCDE dans lequel il y a les plus grandes inégalités. Il y a 113 points d'écart quand la moyenne des jeunes français ont 470, il y a 113 points d'écart selon la classe sociale. Enfin, je veux dire, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on a un système très, très... qui reproduit les inégalités et les aggrave. C'est très mauvais pour ceux qui sont en bas, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, ça devient très mauvais pour ceux qui sont en haut. C'est-à-dire qu'on a aussi très peu d'excellents élèves.
On me dit en régie que le RER a dû vous énerver.
Oui.
Merci. Nous cédons la place à Véronique Reissoul qui va continuer de nous parler de Gabriel Attal avec un sondage, donc la chronique de la politique sur les réseaux. Alors, bonjour, c'est Véronique.
Bonjour.
Donc, vous arrivez avec un petit sondage, n'est-ce pas ?
J'arrive avec un petit sondage sur Monsieur Attal et les mesures qui ont été annoncées hier. Un sondage qu'on a fait pour le Figaro et qui sort là, maintenant, à 17h. Donc, tout d'abord, vous dire que c'était un sujet sur les réseaux sociaux qui a intéressé les gens. On parle toujours de Monsieur Attal, mais tout d'un coup, vous voyez le pic au moment des annonces. Ça a suscité beaucoup de réactions. Quand on regarde les réactions en question, eh bien, globalement, elles étaient plutôt positives, parce que quand vous regardez les emojis sur les 75 000 messages, c'est plutôt des émojis positifs. Il y a toujours un peu de négatif, mais globalement plutôt positif. Et donc, on s'est dit, on va regarder. Ça, c'est du qualitatif, on va dire. C'est l'expression des uns et des autres. Quand on pose la question, donc on est dans une logique représentative et non plus significative, eh bien là, toutes les mesures ont été testées. On a demandé, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Eh bien, c'est un plébiscite sur l'ensemble des mesures, puisque vous avez même 4 mesures qui sont à plus de 80% d'approbation par des Français. Ils trouvent que poser la méthode de Singapour, par exemple, c'est à 88%
une bonne idée. Quand on pose cette question, qu'est-ce qu'on connaît à la méthode de Singapour?
Eh bien, c'était décrit, c'est pour ça que je voulais laisser aussi long, qui était la question exactement, était est-ce que vous trouvez que généraliser la méthode de Singapour basée sur la pratique et les jeux pour l'apprentissage des mathématiques à l'école primaire est une bonne idée? Donc, même si vous ne connaissez pas la méthode de Singapour, il y avait un début d'idée. Ouais. Si vous voulez, balayons cela. De toutes les façons, redonner la possibilité aux professeurs de faire redoubler un élève sans que les familles puissent s'y opposer, là, je pense que les gens peuvent comprendre. Eh bien, on est à 86%. 84% des stages pendant les les vacances pour se mettre à niveau et pour passer à la classe supérieure, 84%. 82% conditionnaient le passage au lycée à la réussite à l'examen du brevet. Et ensuite, on descendait à 77 et 76% pour les deux autres mesures, sachant que celle qui est le plus bas, c'est celle autour de l'intelligence artificielle, mais c'est plus l'intelligence artificielle que la mesure elle-même qui a été jugée. Alors après, la question, on se dit, ben, c'est un tel plébiscite. On peut se demander, vous pouvez trouver la mesure bien, mais vous dire peut-être qu'elle ne sera pas très efficace. Donc on a posé la question sur, est-ce que vous pensez que ces mesures vont améliorer les choses? Et vous avez 69% qui disent que ça va améliorer le niveau des élèves, 66% la situation générale de l'école en France, donc en gros sur le cœur de métier du ministre de l'Éducation. Ensuite, la capacité des élèves, des enfants des milieux populaires à obtenir des bons diplômes, 63%, 59% la qualité de l'enseignement et 56% la capacité de notre système scolaire à former des experts qui excellent. En revanche, ça ne touchera pas autant la discipline. Donc globalement, on va dire que c'est un plébiscite. Vu les chiffres, on peut dire les uns et les autres trouvent ça formidable. Et en fait, c'est même l'opposition qui a fini par laisser des messages plutôt positifs en disant on va voir si ça marche. Mais vous avez, Gabriel Attal est le meilleur ministre de l'Éducation nationale depuis longtemps. Quand un macroniste est bon, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas macroniste qui dit ça. Ou vous avez aussi des enseignants qui s'expriment en disant j'espère un tel tournant depuis si longtemps pourvu que ça marche. Enfin, signé une vieille prof qui a tout vu, tout connu. Donc globalement, on voit bien que ça suscite énormément d'espoir, énormément d'envie. Est-ce que ça va fonctionner? C'est un autre sujet, mais voilà. Et après, juste vous dire que, in fine, ceux qui étaient les plus pointés, eh bien, finalement, sont les parents. Là, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que l'un des problèmes, ce sont les parents.
Oui, il faut sortir les parents de l'école.
Et donc, ce dessin résumait bien, le dessin de Dolto qui dit, avant, c'était les parents qui engueulaient les enfants en disant « qu'est-ce que c'est que ces notes ?» Maintenant, c'est les parents qui engueulent les profs en disant « qu'est-ce que c'est que ces notes ?» Finalement, ça résumait bien le point sur lequel tout le monde s'est mis d'accord et en disant « c'est ça aussi qu'il faudra changer ».
En tout cas, pour un jeune ministre, c'est un départ en fanfare.
Incroyable, en 4 mois.
C'est rare d'avoir une séquence aussi réussie.
Vraiment.
Oui, rare. Mais bon, il reste encore du temps.
Oui.
Et la politique est parfois cruelle, hein, comme dit l'autre.
3 ans et demi de
la roche tarpéienne est souvent près du capitaux ou vice-versa.
Voilà.
On va... Alors, pendant qu'il y a une sinistrose, pendant qu'on est en train de... de commenter une actualité pas toujours très belle, et ben les écologistes, eux, font la danse du derrière. Je vous laisse expliquer, Véronique.
Alors, en fait, déjà, sachez que les Européennes arrivent, donc il y a des meetings, c'est normal. Oui. Donc, je partage avec
voilà. Sauf pour le parti de la majorité.
Oui, voilà, pour le moment, en tout cas. Voilà. Donc, les écolos se réunissent, annoncent demain soir, meeting pour le vivant à l'Élysée-Montmartre, voilà, on lance la campagne. Donc, on a l'annonce en question. Et puis, le meeting a lieu. Alors, voilà, ça donne des choses. On va voir la danse en question, on va la regarder quelques instants. Ça durait 20 minutes, je ne sais pas si ça a 20 minutes. Voilà, donc là, on a...
Vous allez nous faire une petite démonstration.
Je ne vais pas vous faire une démo, mais voilà. Donc là, c'est un meeting. Vous pouvez vous dire, ok, très bien, c'est un spectacle, c'est pas. Pourquoi pas. En fait, la réalité, c'est que les uns et les autres ont été fort étonnés. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais vous. Voilà, vous allez voir, les gens étaient étonnés en disant, ok, très bien. Donc on va dire que danser et partager, c'est intéressant. Mais j'imagine que l'équipe de campagne s'est dit, on va un peu casser les codes des meetings, on va faire des choses un peu différentes. Je vais vous montrer ce qui est différent aussi, parce qu'une fois qu'ils ont. Il y a eu ce spectacle, il y a eu ça.
C'est parti !
On voyait Yannick Jadot, non?
Voilà, voit Monsieur Jadot, voit Madame Rousseau. Enfin,
qu'est-ce qu'ils font, là?
Yannick Jadot a l'air moins à l'aise que les autres.
Oui, moins détendu.
Moins détendu.
Donc voilà, c'est une autre façon de faire un meeting. Autant dire que ça fait un peu jaser. Vous avez même des images qui ont été partagées qui montrent les uns et les autres en train de faire des gestes improbables parce que c'est ça aussi. Donc voilà, donc en gros, ce que les uns et les autres ont résumé, c'est que, et c'est le dernier message, et comme ça, je vous laisserai tranquille. Je sens que la reconquête de la France populaire des territoires ruraux est bien partie de RN est terrorisée face à ce genre de
je crois qu'ils appellent ça la boutithérapie.
C'est une boutithérapie.
Et qu'il y a une ça a une origine, ça vient de protestations de femmes africaines.
Mais il y avait plein d'explications qui sont. En soi, c'est pas si ridicule, c'est juste que c'est sorti du contexte pour un meeting.
Et effectivement, derrière, on pourrait l'appliquer à l'autre partie. Par exemple, je pense que LFI pourrait monter le lac des cygnes avec Mélenchon, ce serait bien, dans la douceur.
Voilà. Bonne initiative. Mon cher Laurent, merci. C'est fini, Véronique.
Ah bah, vous m'avez dit de grouiller, j'ai grouillé.
Bah, oui, c'est pas moi, c'est Flore Simon qui est dans cette oreillette. Merci, ma chère Flore, d'avoir préparé cette émission, d'avoir fait les petits dessins, coupé les sonores, tout ça, voilà. Merci à toute l'équipe technique et merci à tous d'avoir été sur ce plateau. Et à très vite.